presse, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous et exprimez-vous. Merci d'être avec nous. Merci de votre confiance. Profitez-en. Dans 30 minutes, c'est la Libre Antenne. Nous sommes vendredi et vous commentez l'actualité de votre choix. Plusieurs d'entre vous réagissent à la condamnation hier de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko pour diffamation. 2 mois de prison avec sursis. On nous interpelle également sur la révision de la Constitution au Gabon, sur les coupures d'électricité à Kankan en Guinée. Kankan, deuxième ville du pays. Vous êtes nombreux également à souhaiter prolonger notre débat d'hier sur les 2 grâces présidentielles au Tchad. Et je ne vous cache pas que tout au long de la semaine, on a reçu des appels et ça monte de jour en jour au niveau des réactions concernant cette proposition de loi en République démocratique du Congo, un texte qui prévoit de réserver les plus hautes fonctions de l'État aux Congolais nés de père et de mère congolais. Voilà donc un aperçu de la Libre Antenne. Vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre, parler sur RFI, commenter l'actualité, eh bien appelez-nous 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et on va commencer en parlant football. J'accueille d'ores et déjà mon camarade Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur la nomination d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine. Bonjour Fadel.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi de dialoguer avec vous. Fadel, vous êtes au Gabon à Port-Gentil et vous avez des questions, on vous écoute.
Oui, Juan. Et pourquoi Hervé Renard a-t-il été choisi pour entraîner l'équipe de France féminine alors qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine ?
Antoine Grenier, son nom circulait déjà depuis quelques semaines, ça y est, c'est officiel depuis hier après-midi. Le fait qu'Hervé Renard n'ait jamais entraîné une équipe féminine, est-ce un problème ?
Alors, un problème, en tout cas, c'est clairement un virage à 180 degrés pour la Fédération française de football. Parce qu'en choisissant Hervé Renard, qui était peut-être le plus improbable de tous les candidats dont on avait égrené les noms il y a quelques semaines, la task force qui était composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Aline Riera et Marc Keller a clairement montré une volonté de tourner la page Corinne Diacre.
Ouais, Corinne Diacre, démise de ses fonctions au début du mois. On se souvient que la sélectionneuse a été c'est par une fronde de ses joueuses et notamment sa capitaine Wendy Renard.
Oui, c'était un conflit larvé qui est devenu ouvert après le tournoi de France qui avait pourtant été remporté par les Bleus. Les internationales, elles reprochaient à Corinne Diacre un management trop sec et un manque de travail tactique. Donc, en choisissant Hervé Renard, on peut difficilement choisir quelqu'un de plus éloigné de Corinne Diacre. C'est un spécialiste des missions commando.
Oui.
D'ailleurs, son contrat est court, hein, 1 an et demi. Il va jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc, il va faire la Coupe du Monde et les Jeux. Il sera peut-être prolongé, mais en attendant, c'est quand même très resserré comme timing. Là où l'ancienne entraîneuse de Clermont, Corinne Diacre, avait des relations très tendues avec la presse, Hervé Renard, lui, est un excellent communicant, mais ça n'est pas forcément l'objet principal de sa mission. Mais c'est pas un spécialiste du foot féminin, mais il sera bien entouré, c'est-à-dire que
Il est bien entouré, puis c'est un homme d'expérience aussi.
Oui, il a une énorme expérience internationale et il sera, je vous le disais, entouré d'un staff avec des spécialistes et notamment Eric Blake, qui est un ancien adjoint de Corinne Diacre et qui était très apprécié des joueuses de l'équipe de France, qui d'ailleurs faisait partie éventuellement des candidats qui pouvaient espérer être nommé à la tête de cette équipe de France féminine. Donc, il sera très bien entouré, Hervé Renard, et il viendra avec son expérience, qui est une expérience internationale que n'avait pas Corinne Diacre.
Fadel, vous avez d'autres questions?
Oui. Pourquoi Hervé Renard a-t-il préféré les Bleus à l'Arabie Saoudite? Et le changement de sélectionneur pourra-t-il permettre le retour des joueuses qui ont quitté la sélection?
Alors, un mot quand même sur l'Arabie Saoudite qu'il quitte. Et quand il quitte l'Arabie Saoudite, il laisse de côté quand même un salaire mensuel de 300 000 euros.
C'était un salaire en or. C'était 10 fois plus que ce que touchait Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France de foot. Donc, il va vraisemblablement faire un énorme effort. Mais sauf que ce n'est pas ce qu'il recherche, Hervé Renard. Ce n'est pas l'aspect financier. Lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu dans son propre pays. Parce qu'il est reconnu comme un excellent entraîneur en Afrique. Il a remporté 2 fois la CAN. En Asie. également
Zambie-Côte d'Ivoire.
Avec Zambie et la Côte d'Ivoire la dernière fois en 2015. Oui. Il a entraîné jusqu'à récemment en Arabie Saoudite où il a amené l'équipe à la Coupe du Monde et a gagné contre l'Argentine quand même, mine de rien. Donc c'est pas rien. Il sera moins exposé médiatiquement, mais c'est intéressant sur d'autres aspects de diriger cette équipe de France féminine. S'il est reconnu comme un entraîneur qu'on qualifie parfois avec cette expression qui est un peu vieillotte de sorcier blanc, en France, Hervé Renard, il a pas forcément la réussite qu'il aurait souhaité. Il est passé tout près de maintenir Sochaux, c'était en 2014. Il a raté son passage à Lille en 2015. Ça n'avait duré que quelques mois. Donc, par un moyen détourné, il revient dans le foot français pour réussir quelque chose que jusqu'ici, il n'a pas réussi.
Les frondeuses vont-elles revenir? Ça se décide aujourd'hui, dans moins de 2 heures.
C'est ça. Il est présenté à midi, heure française, à la Fédération. Il va présenter sa toute première liste. Et il travaillait sur cette liste depuis quelques semaines déjà, avant même sa démission d'Arabie Saoudite. A priori, oui. Wendy Renard, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Hervé Renard, hein, au passage, et qui avait mené la fronde contre Corinne Diacre, elle a toutes les chances d'être rappelée. Hervé Renard devrait faire en quelque sorte table rase parce que sa mission l'exige et parce que la sélection elle est en quête d'apaisement immédiat. Donc il devrait certainement élargir même au-delà du cercle des frondeuses et rappeler des joueuses qui avaient été écartées ou pas convoquées par Corinne Diacre. On pense à Eugénie Le Sommer, qui est la meilleure buteuse en activité de l'équipe de France. Gaëtan Tinet aussi, qui est une ancienne internationale. C'était des joueuses qui étaient fâchées avec Corinne Diacre et auxquelles Renard pourrait redonner leur chance.
Rapidement. On a été complet, je le pense, Antoine Grenier. Fadel, a-t-on répondu à vos questions?
Merci Juan, comme d'habitude.
Ah bah c'est gentil. Antoine. Hey, Antoine Grenier du service des sports de RFI, bonne journée. À Port-Gentil, 10h17 à Paris. On en parlera tout à l'heure, puisque vous êtes nombreux à réagir à cette très controversée proposition de loi sur la congolité en RDC. Mais d'abord des questions. Bonjour Moïse.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux milliers d'auditeurs de la Radio France Internationale à travers le monde et en Bougimaï.
Bougimaï, où vous êtes, et merci d'avoir patienté. On vous a eu quelques secondes hier en fin d'émission, on n'a pas pu vous prendre faute de temps. Quelles sont vos questions, Moïse?
Une proposition de loi visant à réserver la présence de la République et autres postes clés aux Congolais nés des pères et des mères congolais a été ajoutée à l'agenda de la matière qui sera traitée à l'Assemblée nationale pour le mois de mars.
Oui.
Pourquoi cette loi revient-elle sur la table alors qu'elle a déjà été rétorquée il y a 2 ans?
Oui, c'est vrai que cette proposition avait déjà été déposée à l'Assemblée nationale en juillet 2021, avant d'être rejetée un mois plus tard. Il faut dire qu'à l'époque, les réactions hostiles à ce texte étaient très nombreuses. Bonjour Trésor Kibongula.
Bonjour Juan Gomez.
Analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Ce projet semblait abandonné. Finalement, il revient à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Oui, effectivement. Et je vois 2 raisons à ces retours. D'abord, c'est l'avant-dernière session ordinaire de cette législature à l'Assemblée nationale. Et nous sommes à moins de 10 mois maintenant de la présidentielle qui est annoncée pour le 20 décembre. La prochaine session à l'Assemblée nationale, ce sera en septembre et le pays sera déjà dans l'ambiance électorale. Donc c'est maintenant ou jamais. On en parlera plus de cette proposition. Deuxième raison, c'est ce que j'appelle la surenchère hein, politique pour exister. Car même si cette proposition de loi consacre ou tente de consacrer la double nationalité, il faut savoir qu'aujourd'hui la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut se détenir concurremment avec une autre nationalité. Donc cette proposition de loi portée par un député de la majorité, Servo Pichu Singi Pululu, et sponsorisée par un ancien candidat à la présidentielle, Noël Tchani. Cette proposition donc vise principalement à exclure des Congolais d'origine qui ne sont pas nés des pères et des mères congolais de l'accès à certaines fonctions publiques, notamment l'auditeur a bien cité, notamment à la présidence de la République. Donc dans les viseurs, c'est un secret des polichinelles aujourd'hui, c'est un concurrent à la course présidentielle qui est visé, M. Moïse Katumbi, qui est congolais d'origine mais qui n'est pas né des pères congolais. Donc vous l'avez dit, vous l'avez rappelé Juan, le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait suggéré en 2021 que ces textes ne soient pas retenus parce que certaines de ces modifications violent les dispositions constitutionnelles en plus de renforcer la discrimination entre les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la législation congolaise exclut déjà de l'accès à la présidence de la République et à certaines autres fonctions publiques des personnes qui ne sont pas nés congolais. Donc des personnes qui ont acquis la nationalité congolaise ne peuvent pas devenir président de la République. Aujourd'hui, cette proposition voudrait étendre cette exclusion même aux Congolais qui sont d'origine, parce qu'ils n'ont pas de père ou de mère congolais. Donc c'est surprenant que le même texte rétoqué hier soit aligné 2 ans plus tard, alors que les raisons de son rejet à l'époque n'ont pas changé.
Et à l'époque, les réactions hostiles étaient nombreuses. L'Église catholique, le parti de l'ex-président Joseph Kabila, la représentante du secrétaire général de l'ONU, tous avaient mis en garde contre les conséquences dangereuses d'un débat sur la nationalité. Et depuis le début de la semaine, les voix sont nombreuses également à mettre de nouveau en garde contre les conséquences d'un tel texte. Vous avez une dernière question, Moïse ?
Oui. Quelles sont les chances de voir l'Assemblée nationale adopter ce texte cette fois-ci ?
Alors, les chances, Trésor Kibongula, que la loi soit adoptée ?
Alors, il faut savoir qu'aligner une proposition dans les calendriers des travaux à l'Assemblée nationale ne signifie nullement que ce texte va nécessairement être soumis à l'examen et être adopté. Parce que nous avons un baromètre à Ebouteli, un baromètre qui suit l'activité des parlementaires en RDC, l'activité des députés essentiellement, qui s'appelle Talatala. On a publié avant-hier une note qui montre qu'en moins de 3 ans, les nombres d'arriérés législatifs, c'est-à-dire des textes qui sont alignés dans le calendrier mais qui n'ont jamais été examinés, en moins de 3 ans donc, le nombre de ces arriérés législatifs a été multiplié par plus de 3, voire plus. Donc, des 16 textes en retard, on est aujourd'hui à près de 60 textes qui n'ont jamais été examinés alors qu'ils ont été mis dans les calendriers. Aussi, faut-il relever que certaines modifications préconisées par cette proposition de loi controversée nécessitent la modification de la Constitution, ce qui ne peut être fait aujourd'hui parce qu'une partie du territoire national se trouve sous état de siège.
Ouais. Donc vous êtes dubitatif. Vous êtes dubitatif. Oui. Vous ne croyez pas que le texte sera déjà examiné. Et s'il est examiné, encore faut-il qu'il soit adopté puisqu'il est critiqué même au sein de la coalition au pouvoir. Trésor Kibongula, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Moïse, on a répondu à vos questions ? Bonne journée. Merci, il y avait un petit décalage avec Bougimaï. Merci de votre fidélité et de votre confiance. On repasse au standard avec Maximin qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur Wan.
À Cotonou, au Bénin, soyez le bienvenu. On vous écoute, quelles sont vos questions ?
Oui. J'ai appris sur les ondes que la présidente taïwanaise est en déplacement sur le sol américain. Alors, Pékin menace de riposter au cas où il y aurait une rencontre entre elle et le président de la Chambre des représentants.
Oui.
Ma question est de savoir pourquoi Pékin profite-t-elle de telles menaces.
Ah, pourquoi de telles menaces?
Et quelles sont les chances pour les mettre à exécution?
Alors, c'est vrai que la présidente taïwanaise effectue en ce moment un voyage officiel en Amérique centrale. À l'aller, elle s'est arrêtée à New York et au retour, elle s'arrêtera à Los Angeles où elle est censée rencontrer Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants américains. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Maximin.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, Maximin le disait, la Chine a prévenu qu'elle prendrait des mesures fermes pour riposter si cette rencontre avec Kevin McCarthy avait lieu. Expliquez-nous pourquoi.
Oh ben tout simplement parce que la Chine de Xi Jinping, donc du président chinois, a fait de la réunification avec Taïwan une priorité. La rébellion hongkongaise, vous l'avez vu, en 2019 a été réglée par une loi sur la sécurité nationale. Mais là, Taïwan, ce n'est pas du tout Hong Kong. Il y a un gouvernement élu qui interagit avec d'autres États, d'autres pays, d'autres gouvernants. Et ça, pour Pékin, ce n'est pas supportable, c'est trop. Et c'est ce qu'il considère en tout cas. Il considère en tout cas ici que le gouvernement élu taïwanais, les représentants taïwanais, dont Tsai Ing-wen, sont des indépendantistes, des séparatistes, même c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc ils ne veulent pas qu'ils rencontrent des dirigeants étrangers. Et le président de la Chambre des représentants américains en fait partie. Donc c'est vrai, Maxima a raison aussi de dire que ce n'est pas du tout une visite inhabituelle. C'est déjà arrivé que la partie taïwanaise fasse escale, puisqu'on parle d'escale aux États-Unis, ce que Pékin qualifie aujourd'hui de, ça a évolué dans le vocabulaire, de transit sournois aux États-Unis, et donc répréhensible selon Pékin. En tout cas, il y a des menaces, effectivement, Maxima. Dire alors, quelles sont ces menaces et est-ce qu'elles pourraient être mises à exécution, On peut imaginer, par exemple, si jamais ça allait plus loin, ce qui s'est passé cet été. Vous vous souvenez quand Nancy Pelosi, donc l'ex-présidente de la Chambre des représentants américains, a été à Taïwan. Il y a eu, par exemple, un blocus du détroit de Formose par la marine chinoise. Il y a eu des manœuvres navales avec des tirs de missiles réels, hein, donc des exercices quand même très menaçants. Donc on pourrait avoir ce même scénario, par exemple.
Merci infiniment, Stéphane Lagarde. C'était bref, concis, mais on a répondu à Maximin et c'était important de l'avoir au téléphone, même si le réseau téléphone n'était pas très bon. Avec Cotonou, on termine cette première partie avec Boubacar en Guinée. Bonjour Boubacar.
Bonjour.
Vous êtes à Farana.
Effectivement.
Des questions sur TikTok. TikTok, ce réseau social utilisé par 1 milliard de personnes à travers le monde. Eh bien, TikTok est menacé d'interdiction aux États-Unis. D'ailleurs, la semaine dernière, son PDG a été auditionné par le Congrès américain. Et vous avez des questions, Boubacar ?
Oui, effectivement, j'ai des questions.
Allez-y.
Pourquoi les États-Unis sont autant obstinés à interdire TikTok alors que les autres plateformes sont épargnées ?
TikTok, effectivement, donc dans le collimateur des autorités américaines. Bonjour Paul Charron.
Bonjour.
Spécialiste des stratégies d'influence de la Chine à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Expliquez-nous pourquoi les autorités américaines accusent TikTok de mettre en danger la sécurité nationale.
Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, on peut se demander quelles sont les différences entre finalement TikTok et d'autres plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram qui recueillent énormément de données. Certains spécialistes affirment même que Facebook recueille plus de données que TikTok. Donc le problème, c'est pas tant finalement la nature et la quantité de données recueillies que la destination de ces données. Or, il a été prouvé que ByteDance, donc la société mère de TikTok, qui est une société chinoise, avait la possibilité d'accéder aux données et donc potentiellement de les transmettre au Parti communiste chinois. Et là, la question qui se pose, c'est la question de la nature du régime. C'est un régime autoritaire. Les services de renseignement chinois peuvent faire pression sur ces sociétés pour obtenir des informations, des données sur les utilisateurs de TikTok. Et c'est là que le problème se pose.
Oui, enfin, le président de TikTok s'est exprimé devant le Congrès américain la semaine dernière. Il affirme qu'il ne partage pas les données avec le gouvernement chinois.
Oui, mais TikTok joue sans doute un peu sur les mots, puisqu'ils ne transmettent pas de données. Mais il a été prouvé que les employés de ByteDance avaient accès aux données de TikTok.
D'accord, donc des employés peuvent du coup être de mèche avec les autorités et transmettre certaines informations. C'est ce que je crois comprendre à travers vos propos, Paul Charron.
Voilà, pas forcément de mèche, mais disons qu'il est impossible en Chine de refuser au pouvoir de transmettre des informations si le parti ou les services de renseignement, les services de sécurité demandent ces données.
Ouais.
C'est la nature du régime empêche une société privée de refuser.
Ouais, en tout cas, les élus américains n'ont pas du tout été convaincus par les explications du PDG de TikTok. Faut-il s'attendre à une interdiction définitive du réseau social aux États-Unis ?
Oui, probablement. En effet, le Zhou Shouzi, donc le PDG, n'a absolument pas convaincu. Il n'a d'ailleurs pas répondu sur un certain nombre de points qui étaient importants pour les membres du Congrès, sur la censure, sur la question des Ouïghours, par exemple, question qu'il a esquivée plusieurs fois. La seule question à laquelle il essaye de répondre, c'est sur la préservation des données, donc qui serait désormais traité uniquement aux États-Unis et donc n'aurait plus la possibilité d'être envoyé en Chine. Mais sur toutes les autres questions, finalement, la question de la censure, la question de la diffusion d'informations manipulées, il n'a absolument pas répondu.
Et je précise que le Congrès américain a déjà interdit TikTok des smartphones gouvernementaux. En Europe, la Commission et le Parlement ont fait de même. On voit bien que les mesures de restriction à l'encontre de TikTok se multiplient. On suit cela et visiblement, ça intéresse nos auditeurs et notamment Boubacar qui nous appelait de Farana. Merci Paul Charron d'avoir été avec nous. Vous restez à l'écoute d'RFI. Dans un instant, la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après, dans 10 minutes, pour la Libre Antenne. À tout à l'heure.